L'Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, nous sommes toujours les premiers à vous donner des informations. Madame Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, a expliqué, il faut le reconnaître, chez nos confrères de BFM TV ce matin, qu'elle s'opposerait au vote, au projet de loi, donc Liotte, et en opposant l'article 40, donc il n'y aura pas de vote. Donc l'affaire des retraites, après le bilan d'hier, qui était quand même assez calamiteux pour les manifestants, c'est une affaire qui est terminé sur le plan, évidemment, législatif, mais il reste évidemment une violence et une opposition dans le pays. Je voudrais qu'on vienne sur ce que disait tout à l'heure Abiquière à propos de l'abaïa, avec en plus cette histoire l'INSEE où Madame Macron va recevoir les parents de cette jeune fille qui ont considéré qu'ils avaient été extrêmement maltraités dans une sorte d'indifférence par Pape Ndiaye, qui disait qu'il ne pouvait rien faire, que le directeur de l'école ne pouvait rien faire, le principal ne pouvait rien faire, les collègues ne pouvaient rien faire, que tout ça était de la faute des réseaux sociaux. Vous avez tous les deux été non seulement d'excellents élèves, mais en même temps vous avez été ou fait partie à un moment ou à un autre du monde enseignant, etc. Est-ce que vous considérez que ce ministre, il faut qu'il y ait une séance de rattrapage, ce ministre fait le job ou est-ce qu'il est complètement perdu? Pascal et Marc.
Alors, ce ministre est transparent depuis le début, il n'a pas de conviction. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Macron l'a choisi. C'est parce que c'est une personne plastique qui applique des consignes qu'on lui donne d'en haut, mais qui de lui-même ne prendra aucune initiative. Dans l'histoire de l'abaïa, ce qui est important, c'est que c'est deux conceptions de la liberté qui s'affrontent. Les jeunes femmes qui portent l'abaïa ou le voile disent « c'est ma liberté ». Et donc, au nom de la tolérance, vous devez me laisser la porter. Et cette tolérance est invoquée en public pour leur permettre de s'habiller comme elles veulent, mais en privé, ce sont des menaces de mort sur les professeurs qui les sanctionnent ou qui leur font marquer.
Vous avez été, Pascal, vous avez été à l'université, comme moi, comme Marc, etc. Ça n'existait pas à l'époque.
Non, mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que il y a eu la révolution islamiste de 1989 et qu'aujourd'hui, ceux qui en France font la loi dans les écoles, ce sont les frères musulmans. Et je rappelle, je vous l'avais déjà dit il y a 15 jours, le livre de Florence Bergeau-Blackeur sur les frères musulmans, elle est menacée de mort. Ce sont eux qui ont compris que le terrorisme était contre-productif et qu'il fallait le remplacé par la prédication et la persuasion. Et ils sont en train de réussir dans nos écoles.
Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet immédiatement, c'est l'affaire Raoult, parce que c'est le premier... Mais justement, avant qu'on parle de l'affaire Raoult, parce que c'est important, il y a aussi dans cette affaire-là une sorte de point, comme dans l'histoire de Liotte. Est-ce que vous avez le même constat, Marc, sur justement la personnalité, qualifions-la pour ne pas être plus méprisant, transparente de Monsieur Pape Ndiaye?
C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans une sorte de politique affective aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'une consolation soit prodiguée. Et apparemment, le ministre aurait manqué de compassion, disent les parents. Et il y a une sorte d'instance d'appel qui est l'épouse du roi. C'est-à-dire, c'est Brigitte Macron qui va passer derrière et qui va en quelque sorte essayer de...
Parce qu'ils ont conscience de ces insuffisances.
De compenser. Ils ont peut-être conscience de ces insuffisances. Alors, cela dit, sur la question de l'abaïa, je pense que ça le dépasse très largement. L'adolescence à l'école, elle cherche toujours les signes de provocation. Alors, à notre époque, ça pouvait être pour les garçons, les cheveux longs ou les vestes en peau de mouton retournées. Aujourd'hui, c'est l'abaïa. Le paradoxe, c'est que la provocation, elle passe par un signe de soumission religieuse. C'est-à-dire, en réalité, il y a une sorte de bigoterie qui nous renvoie à Voltaire. Parce que Voltaire, c'est à la fois l'homme du traité sur la tolérance, et il y a un jeu assez pervers sur la notion de tolérance, mais en même temps, c'est le rictus voltairien de l'homme qui dit « écrasons l'infâme », c'est-à-dire les bigots. Le paradoxe, et peut-être le danger, c'est que ces provocations se déroulent dans le lieu même qui devrait être celui des lumières, de la raison, du civisme et de l'enseignement de l'histoire. Tout ça étant, dernière chose, fortement concurrencé aujourd'hui par un autre vecteur de savoir ou de faux savoir, qui sont les réseaux sociaux. Car en réalité, l'école, elle est attaquée, elle est corrodée par précisément tous les hoax, les fake news ou les infox.
Vous parliez des lumières, on va parler de deux sujets qui font justement courir l'information sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire Yankovici, 4 avions dans une ville. L'homme est polytechnicien, donc il est compétent. Raoult, c'était aussi la grande compétence en biologie moléculaire. Malheureusement, il s'est mêlé de virologie et la chose a un peu vrillé. Maintenant, il est attaqué de partout. Je voudrais simplement, avant que Marc ne parle de Raoult et voulez que Pascal nous parle de Jean Covici, polytechnicien, je voudrais simplement qu'on écoute la manière dont Raoult me répondait quand je l'ai interrogé sur l'antenne de Radio Classique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne me portait pas dans son cœur.
Mon avis n'a pas plus d'importance que celui des autres. C'est une manie que vous avez de demander aux gens leur avis, surtout que
non,
je
non,
partage
pas. Du tout.
Je voudrais bien que vous limitiez les questions à mon métier. Enfin, il faut être complètement fou pour avoir une opinion comme ça. Enfin, qu'est-ce que je vous dis? Il faut demander aux astrologues, aux cartomanciens. C'est pas sérieux, enfin. C'est impossible de me piéger, mon bon garçon, parce que tout ce que je dis, je le note, je l'écris. Je veux pas parler de ça. Moi, je parle de science, si vous voulez. Je ne parlerai pas de ça. Je ne vais pas jaser avec vous. Donc ne me posez pas de questions comme ça, parce que sinon, je raccroche.
Vous voyez le ton du personnage à l'époque. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, j'étais très minoritaire, parce que le nombre de gens qui le recevaient avec un tapis vert, un toboggan et bonjour monsieur était quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce qui vous choque dans cette affaire Lambron? Parce que maintenant, il y a quand même une mise au point, y compris dans sa famille d'ailleurs.
Rien ne me choque. Vous avez entendu là un exemple de ce qu'on pourrait appeler la condescendance paranoïaque. Souvenez-vous, en mars 2020, dans le grand désarroi, dans la panique du Covid, une sorte de mage méridional, qui ressemble un peu à un druide de Game of Thrones, apparaît et commence à prôner l'hydroxychloroquine, dont personne n'a jamais entendu parler. Tout de suite, d'ailleurs, des médecins...
Si, en Afrique, on en donne beaucoup
bien
pour les maladies
le paludisme. Ouais. Mais enfin, tout de suite, des médecins d'ailleurs marquent leur scepticisme, mais on va suivre, beaucoup de gens vont suivre l'absolutiste. Ça m'intéresse parce que je pense que ça cristallise, c'est une très bonne leçon, 4 ou 5 tendances de notre époque, mais je serai très rapide. D'abord, la prime au butor, le syndrome du haut-parleur. Malheur à moi, je suis nuancé, disait Nietzsche. Nous sommes dans une époque d'anti-nuance, voire Mélenchon ou Sandrine Rousseau aujourd'hui. Deuxièmement, une chose qui est très française, c'est l'archipel et le ressentiment régional. Dans cette affaire, on a clairement joué Marseille contre Paris. Troisièmement, l'opportunisme intellectuel qu'on voit aujourd'hui par rapport au diktat de la pensée ou de l'intimidation woke. Souvenez-vous d'Onfray qui, en avril, déclare que le professeur Raoult, c'est le grand homme selon Hegel, et en décembre, quand il attrape le Covid, il abjure, il se renie. Comme Houellebecq, d'ailleurs, son comparse vient de se renier. Le reniement chez les intellectuels aujourd'hui, c'est de la pensée fast-food. Enfin, dernière chose, les vérités alternatives, c'est-à-dire ce monde trumpien de la post-vérité, l'idée qu'on nous ment d'en haut, que la vérité est dissidente, et on n'est pas loin du complotisme. Souvenez-vous aussi de ce documentaire Hold Up, qui récapitulait toutes les billes pesées. Ça justifie ce que dit Jean-Louis Bourlange aujourd'hui, la France est en train de devenir un océan de déraison.
Raoult, qui me prenait pour un imbécile, fut lui un grand spécialiste de biologie moléculaire. Simplement, évidemment, ce qu'il y a, c'est qu'il a transféré ça vers la virologie en médecine, évidemment. On a dit ça pour beaucoup de médecins. Ça, vous aviez tout d'un coup des dermatologues qui parlaient de virologie, ils y connaissaient rien du tout, mais en même temps, ils étaient invités par nous, donc on a quand même une certaine forme de responsabilité. Le dernier cas que vous vouliez aborder dans le délire du moment, c'est le délire Jean Covici. Pascal, c'est-à-dire lui, il est polytechnicien, donc il est comme Raoult, c'est un type qui quand même a des compétences, et il vous propose à vous, comme à Lambron, de ne plus jamais prendre l'avion de votre vie, puisque finalement vous avez un certain âge, vous êtes toujours magnifique, mais vous avez pris 2 fois l'avion quand vous étiez jeune pour découvrir l'Amérique, la Russie, la Chine, vous l'avez pris à l'âge adulte pour aller voir l'Italie et je ne sais pas quoi d'autre, et puis maintenant, direction la Corrèze, à vie, quoi.
Mais ou les Alpes. Brunner aime les bateaux, hein, voir l'une de Fiel.
Non, mais alors ce qu'il y a, c'est que...
Et c'est à la fois pris en rigolant et en même temps, c'est repris partout, quoi.
Oui, repris partout, parce que l'homme est intelligent, c'est lui qui a inventé le bilan carbone en 2007. Il est pro-nucléaire, donc il est détesté par les autres écologistes, partisan de la décroissance. Mais il y a des choses... Alors, c'est un lobbyiste ardent, un conférencier. Il ne supporte pas...
Il est comme... brillant.
Oui, il est brillant. Comme Raoult avec vous, Guillaume, il ne supporte pas les objections. Et il balaye tout ça d'un revers de la main. Il y a quelque chose de plus inquiétant encore que les 4 voyages en avion pour une vie entière, c'est qu'il est eugéniste et il propose de ne plus soigner les malades à partir de l'âge de 70 ans au nom de la démographie.
Donc moi je serai mort.
Ben oui, moi aussi, et Marc bientôt.
Non, bientôt. Mais pas si vite.
Et il est partisan d'un régime fort calqué sur celui de la Chine. Il pense que la démocratie est inapte à traiter le réchauffement climatique. Et c'est un gourou.
Qu'est-ce qu'on a, nous les Français? Alors peut-être est-ce qu'on est une exception ou pas, justement, à tout d'un coup être fasciné par ce type de personnage.
Je vais vous dire, Guillaume, Jean Covici est l'héritier du mouvement saint-simonien, vous savez, au début du 19e siècle.
Oui, je m'en souviens.
Ce sont des
J'étais
ingénieurs...
à l'école, moins longtemps.
Mais ce sont des ingénieurs qui pensent que le règne de la raison doit supplanter le règne des passions et des émotions, et donc qu'il sait et que par conséquent, on doit s'incliner devant son savoir. Cet homme est dangereux, c'est le professeur Raoult Vert, mais son verbe séduit incontestablement. Et il a pris le melon, pour parler un peu grossièrement, il a pris le melon, et quiconque aujourd'hui vient contre lui est traité d'imbécile. D'ailleurs, sa manière de parler... Et c'est un flot continu. Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'interrogation. Et il dévide sa rhétorique. Point. Et puis maintenant.
Hier, dans l'opinion, il y avait un excellent papier sur lui avec justement des scientifiques qui ont le même type de pédigré que lui et qui justement réfutaient toutes ses thèses en disant que c'était justement au-delà de la science, de la croyance, en fait, déguisée en science.
Oui. Mais là où il est dangereux, c'est qu'il est meilleur qu'Aurélien Barraud, meilleur que Nicolas Hulot, meilleur que Pablo Servigne ou que Yves Cochet, le dingo à la carrière de la cheval. Il a des arguments scientifiques.
Le lapsus du vaccin.
Oui, mais c'est un lapsus très révélateur qui est tout à fait vrai.
Lysenko.
Et par conséquent, oui, c'est le Lysenko de l'écologie. Mais le phénomène est intéressant.
C'est un plaisir de vous recevoir. Il est pile 9h sur l'antenne de Radio Classique. L'heure du rappel des titres avec Augustin Lefebvre. Et l'accueil triomphal de Franck Ferrand. Vous êtes sur la radio que vous aimez.